cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, 28 juin 2001 à Saint-Judas.
Il n'y a plus que deux cours. Alors nous continuons ce regard de sagesse sur l'homme, sur ce qu'est la personne humaine. Dans la vision de Dieu, autant que le philosophe peut voir cette personne humaine, vous voyez, c'est très important pour voir ensuite dans notre vie ce qu'est la personne chrétienne. Il faut d'abord voir ce que c'est que la personne humaine. Je ne peux pas voir directement ce que la personne humaine, ce que la personne chrétienne, si je ne vois pas d'une façon, dans un regard de théologie naturelle, dans un regard de sagesse, ce qu'est la personne humaine. Alors, les grandes dimensions de la personne humaine, l'autonomie, la recherche de la vérité, la volonté, au point de vue pratique, l'intelligence et la volonté se nouent autour de la prudence. La prudence et son frère jumeau, oui, sont les deux frères jumeaux, hein. Symboliquement, prudence et art. À ce point de vue-là, nous avons toujours en nous deux personnes humaines qui luttent entre elles, comme des petits jumeaux. L'homme prudent et l'homme artiste. C'est très curieux, mais c'est symboliquement le point de vue des jumeaux au niveau personne. Et ce serait intéressant à creuser ça. Parce que c'est sûr que c'est ordinairement le lieu de toutes les luttes. Au niveau prudence, au niveau personnel et au niveau politique. Vous avez deux types politiques, prudence et art. Et aujourd'hui, c'est d'une clarté nette. Une politique artistique ne regardera que l'économie. On s'en fiche pas mal de la morale. On la meurtrit. On voit que le point de vue économique. Alors, il y avait le point de vue inverse du point de vue politique, ne voir que le point de vue moral. Je dis ça, c'est parce que, au fond, c'est le nœud une quantité de points de vue différents. C'est une orientation artistique, une orientation prudentielle. Alors, regardons le point de vue prudentiel. Je crois qu'on doit le regarder d'abord, selon un ordre de sagesse divine. La prudence peut-être comme une sagesse pratique. L'art n'est jamais sagesse pratique. L'art a une grosse influence sur nous parce que l'art est plus conscient que la prudence. La prudence n'est jamais totalement lumineuse, tandis que la prudence est très lumineuse, toujours. Tandis que, je veux dire, la prudence n'est jamais totalement lumineuse, alors que l'art est totalement lumineux. Et cherche toujours la lumière. Et c'est dans ce sens-là que le point de vue artistique passe très souvent avant le point de vue prudentiel. Et c'est important de bien comprendre ce petit duel que nous portons tous en nous. On porte en soi cette dualité dans notre personne humaine. Et nous optons, il faut les garder les deux, hein. Vous n'avez pas le droit d'en tuer l'un pour être sûr que l'autre passe, puisse s'engraisser. Non. Vous pouvez tuer la sagesse prudentielle, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde politique. Alors, il y a machiavélisme, tout est bon comme moyen. Le tout, c'est de réussir, peu importe comment. Et tout est tourné à ça. Une efficacité première. Alors, c'est art, au point de vue très général, hein, c'est l'efficacité, quoi. Au point de vue prudentiel, l'amour est premier. Pas de prudence sans amour. Et il y a au point de vue prudentiel ce point de vue que nous portons en nous, le point de vue de la liberté. Sommes des hommes libres. Mais la liberté naît de l'amour et non pas l'amour naît de la liberté. Il y a là déjà quelque chose de très important à voir. Parce que depuis Descartes, et Descartes a eu quand même une grosse influence. Depuis Descartes, la liberté est mise avant l'amour. Alors que Aristote, saint Thomas, montrait que la liberté présuppose l'amour. C'est à partir de l'amour que je suis libre. C'est quand j'aime quelqu'un profondément comme ma fin, que je suis libre à l'égard des moyens en vue de cette fin. Et plus ma fin est élevée, plus ma liberté est grande. L'amour de Dieu, l'amour du Christ, lorsqu'il passe avant l'amour humain, me donne une liberté beaucoup plus grande. Ce n'est pas toujours ce qu'on expérimente, hein, autour de soi. Mais dès qu'on réfléchit, on sait très bien que l'amour qu'on a pour le Christ nous rend souverainement libre, puisque on cherche qu'une seule chose, c'est l'union avec Jésus. Et on voit que les moyens sont multiples, diverses. Alors on devient évidemment très farouche pour les moyens les plus efficaces, les plus profonds, ça c'est sûr. Alors, on a une détermination dans la liberté qui est plus grande. Et la détermination dans la volonté, voyez, vient de la faim. Et c'est la faim qui me détermine dans ma liberté. Quand vous posez un acte libre, vous êtes très déterminé dans votre liberté. Et d'où vient cette détermination dans votre liberté ? Ça vient de votre amour, de l'amour que vous avez pour la faim. Alors vous avez une détermination nette en vue de cette liberté. Parce que la liberté, très souvent, hein, c'est comme ça que les gens la définissent, c'est faire ce qu'on veut. Ah, je suis libre, je peux tout faire, je peux faire n'importe quoi, je suis libre. C'est pas du tout la liberté, ça. Mais ça veut tout simplement, il n'y a pas d'obstacle, je peux tout faire. Aucune barrière, terrain vague, je peux tracer ce que je veux. Vous voyez, c'est un peu la liberté de l'artiste. La liberté de l'artiste, il veut construire une chapelle. Si le terrain est absolument libre, il y aura une liberté beaucoup plus grande pour sa construction. Si au contraire, il y a tel immeuble, telle forêt, interdiction d'abattre les arbres. Et lui, avec son plan, il fallait l'abattre. Non, il est conditionné par telle chose. Et ce conditionnement diminue sa liberté d'artiste. Et très facilement, vous définissez la liberté comme la liberté de l'artiste. Parce que c'est celle-là où vous expérimentez le plus. La liberté que vous avez dans le choix amical. Ah. Là, vous avez la liberté d'une façon très nette. Dans le choix amical. Et ça peut aller très loin dans le choix amical. La liberté d'un garçon qui veut se marier, choix amical. Il connaît deux jeunes filles, et l'une autre dit, elle pourrait très bien être mon épouse. Je me souviens, c'est quelque chose de vécu que je vous dis, c'est pas du tout hypothétique. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup là-dessus, parce qu'il me prenait comme conseiller. Et c'est pas moi qui dois choisir, c'est vous. Je peux vous donner un conseil. Simplement, dans le choix, on peut avoir des conseillers. Et dans les choix importants, on prend des conseillers. On le fait pour l'argent. Et on ne le fait pas, quelquefois, pour un choix de vie. Alors que le choix de la vie est bien plus important que le choix de l'argent. Le choix de l'argent, c'est l'efficacité. Hein. Est-ce qu'on peut baser là-dessus ? Est-ce qu'il y a de l'avenir ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va s'augmenter ? On demande un conseil à quelqu'un qui est très qui connaît bien la situation. Ça, on n'hésite pas à demander de conseil. Quand il s'agit d'un choix de vie, on hésite beaucoup plus à demander conseil. C'est très curieux, ça. On le demande très prudemment. alors que c'est beaucoup plus important. Et donc ça demande l'intervention du conseil bien plus profondément. Le conseil, c'est avoir un troisième œil. On en a deux, c'est déjà bien. Et alors, par l'ami, on a un troisième. Tu peux voir des quantités de choses que moi je vois pas, parce que j'aime trop cette personne, alors je ne vois pas ses défauts. Toi, tu la vois. Laquelle il faut choisir ? Alors quelquefois, on est comme l'âne de Buridan, vous savez, c'est l'exemple classique de l'âne de Buridan. Il a deux modes de foin, elles sont semblables. Laquelle va-t-il choisir ? Il regarde l'une, il regarde l'autre, il regarde l'une, il regarde l'autre, et il ne choisit jamais. Ça arrive de temps en temps, ça, deux modes de foin. Dans les élections, ça arrive. Vous y votez. Et puis, même nombre de votes. Et on reste comme ça. Et on ne choisit personne. On choisit un troisième. C'est très curieux. Le troisième œil. Le conseil. Le troisième œil. Quand on choisit à partir de la fin. Si on choisit bien, humainement, on choisit à partir de la fin. Parce que le choix porte sur une personne, l'ami. L'ami. L'épouse, future, ou l'ami, tout simplement. Pour l'épouse future, le choix est plus grave parce que on s'engage totalement pour la vie. L'ami, on s'engage aussi pour la vie, mais c'est plus facile de se reprendre. Le choix est un moment extrêmement important parce que c'est notre personne humaine qui se noue. On découvre la personne humaine à travers son choix. C'est parce que c'est la fin qui est présente et la fin se présente à nous à travers un moyen. On choisit un moyen. Mais on choisit un moyen qui, quelquefois, est tout proche de la fin. Alors, un moyen lié à la fin, en connaturalité avec la fin, ou un moyen beaucoup plus extérieur. Et dans le choix, la fin est comme présente. Elle se dévoile. Et dans tout choix que nous faisons, il y a l'union de l'intelligence pratique, la prudence, et la volonté. Donc tout choix repose sur l'intelligence et la volonté. Et dans tout choix, le lien intelligence et volonté est différent. Un intellectuel choisit autrement qu'un affectif. Pour un affectif, ça s'arrangera toujours. Pour un intellectuel, pas du tout. Il y a là un obstacle, ça ne s'arrangera pas. L'obstacle grandira. Et c'est très curieux de sentir cela. L'affectif choisi en fonction de son amour. Et l'amour facilement absorbe les obstacles, les dépasse, on ne les voit plus. C'est l'intelligence qui voit l'obstacle. L'obstacle, c'est toujours une négation. Hein. Et l'affectif n'aime pas ça, les négations. Et un affectif, au bout d'un certain temps, ne voit que son amour. Le reste n'a pas d'importance. Il s'en apercevra trop tard. Et c'est dans ce sens-là qu'il a besoin, très souvent, d'avoir le conseil d'un troisième œil. Parce que l'affectif, quand il est vraiment pris par le point de vue de l'amour, ne voit que cela. Vous voyez, si j'analyse le choix que je fais, si j'analyse dans la lumière de la sagesse de Dieu, je verrai nettement ces deux aspects. Et ces deux aspects de l'amour et de l'intelligence vont à l'égard du choix, être tous les deux présents. Si je suis très lucide dans mon choix, je verrai que je choisis un moyen plus en connaturalité avec mon affectivité, avec mon cœur, plus en connaturalité avec l'amour que j'ai pour ma fin, et un autre moyen, au contraire, qui lui est peut-être plus juste, plus en relation avec ma fin, pas avec moi, mais avec ma fin. Et c'est là où la lutte va avoir lieu. Je choisirai le moyen plus en connaturalité avec moi ou le moyen plus en connaturalité avec ma fin. L'intellectuel choisit le moyen plus en connaturalité avec la fin. L'affectif choisit le moyen plus en connaturalité avec son affectivité, avec lui, plus en connaturalité avec lui. C'est très important ça, pour des choix importants de notre vie, qui nous, notre personnalité, notre personnalité se noue dans les choix. Et c'est très vrai que le choix, sagesse pratique de la prudence, est quelque chose de capital. Parce que c'est toute notre vie qui va s'orienter comme ça. Vous voyez, la fin, elle reste intentionnelle. On se bagarre pas trop pour les intentionnels. C'est pas encore du réel. C'est intentionnel. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Ah, dès qu'on commence à choisir, ah, je suis plus d'accord avec vous. Ah non, c'est pas du tout ce moyen-là. Quand on étudie la différence, on voit très vite la différence de ces deux moyens. Il y a le moyen, pas d'histoire, hein. Choisissons ça, pas d'histoire, là. On sera tous d'accord. L'affectif L'affectif, c'est toujours pas d'histoire. Le consensus, que tout le monde sera d'accord. Tu pourras lui payer un verre de vin, il sera d'accord. Parce que le choix sera affectif. Alors, transposer ça affectivement, un verre de vin, c'est le point de vue affectif. Alors que l'intellectuel dit, c'est très dangereux. Ce moyen-là, choisi-là, vous conduira vers quelque chose qui n'est plus du tout la fin qui était choisie, qui est aimée. Alors, c'est très important, au point de vue philosophique, de regarder par rapport à Dieu, notre fin véritable. Et on dira Dieu premier servi. La vérité, c'est la première chose que je cherche. Je rectifie alors mon affectivité. Et je rectifie à cause de cet amour de la vérité. En effet, il faut choisir ce moyen-là. C'est celui qui me conduit directement vers ma fin, la vérité. C'est difficile, ce sera beaucoup plus difficile, ce sera peut-être des luttes, mais c'est ça qu'il faut choisir. Et je choisis consciemment à cause de la fin. Je peux très bien, étant donné que je vois toutes ces luttes, que je vois combien ce sera difficile, je dis, je ne peux pas faire ça. Ce sera trop difficile. Alors je me rabats sur l'autre moyen. Et j'essaie de prendre 36 moyens, 36 excuses pour me justifier. Réfléchissez dans votre vie. Et vous verrez que c'est constamment comme ça. C'est très curieux, hein, de voir que notre sagesse pratique, la sagesse contemplative est une. La sagesse pratique de la prudence, qui fait partie de ma personne, partie essentielle de ma personne, va impliquer très vite l'orientation de ma vie, c'est quand même quelque chose de très grand. Je peux orienter ma vie ou vers une recherche de vérité avec tout le poids que ça représente, ou pas de bagarre, consensus universel. Il ne faut surtout pas être quelque chose qui vient, non ? Alors, on accepte à ce moment-là dans notre choix, quelque chose qui n'est plus aussi adéquat, qui est faiblard. Alors, quand ça se répète, vous voyez comment la personnalité et la personne dégringolent. C'est très curieux. Et c'est là où l'ami qui est un véritable ami, le troisième œil. Mon cher, c'est pas étonnant. Chaque fois que tu as choisi, tu as toujours choisi le côté affectif. Jamais le point de vue objectif de la fin. Ça. Si on essaie de réfléchir, hein, on est une petite communauté, community toute petite à côté de la communauté d'un pays, à côté de la côté de l'Église. Et le phénomène d'une petite communauté a l'avantage que tout est beaucoup plus clair. Parce que dès que vous êtes au niveau politique, il y a des tas d'influences que vous ne connaissez pas. Dès que c'est au niveau de l'Église, il y a des tas d'influences que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un de haut placé, très astucieux, il veut absolument, selon une intelligence orientée très fort vers le point de vue de l'efficacité, qui veut arriver à réaliser ça. Philosophique, c'est très intéressant de bien comprendre que plus je descends vers le concret, quand je regarde la personne humaine, la prudence, c'est quelque chose de très concret. Le désir de la sagesse contemplative, c'est très concret, mais c'est toujours lointain. C'est évident, c'est lointain. C'est ma fin dernière que je contemple. Je ne contemple pas ma fin intermédiaire, non. Plus je descends vers le concret, plus je vois que la multiplicité, la division augmente. Et la première division que j'ai vue dans ma personne, c'est intelligence et volonté. En fonction de cette première division, je regarde la seconde division, l'intelligence pratique. L'intelligence pratique est ou prudence ou art. Et c'est à l'intérieur de l'intelligence. Et ça dépend de ma première distinction. Et dans la prudence, je vois encore deux manières de nouer ma prudence autour du choix. Je vois deux manières de choisir humaine. Et de manière dont je ne suis pas toujours très conscient. Les affectifs ne sont pas conscients de choisir tout le temps comme ça. C'est très curieux. On est à côté d'eux, l'œil libre, parce qu'on ne doit pas choisir, on le laisse choisir, et on voit qu'il tombe dans le panneau, toujours, à cause de son affectivité. Son intelligence, pratiquement, est obscurci. Il croit absolument bien faire. Et vous avez beau lui dire, attention, attention. Non, non, non. L'affectivité, un poids très curieux. Vous voyez, alors plus on descend dans le concret, plus on voit la multiplicité. Réfléchissez sur le choix de votre vocation. C'est la grande orientation de vie, quand même. Réfléchissez sur, dans votre formation, le choix entre prendre telle matière, puisque la philosophie implique cette orientation. vous choisissez telle ou telle orientation. L'affectivité joue. Plus vous descendez, plus les choix sont multiples. Et plus les choix sont multiples, plus la diversité augmente. Et plus vous avez des incompréhensions. Alors, il faut tout le temps remonter vers sa finalité pour retrouver l'unité. Et il y a un moment où ça devient quasi impossible au point de vue pratique. Alors, c'est à ce moment-là qu'au point de vue pratique, au point de vue prudentiel, on est obligé de prendre des moyens, des choix, des moyens qui sont douloureux, parce qu'on exclut. La charité nous demande de n'exclure personne, d'aimer tout le monde. Notre Père dans les cieux fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Évangélique, alors, le philosophe a le droit de regarder l'évangile. Au point de vue évangélique, on laisse pousser, livrer avec le bon grain. Quelle imprudence! Le philosophe dit ça tout de suite, quelle imprudence! L'amour de Dieu est tel qu'il peut exiger ça. L'amour humain, non. Jamais. Vous voyez, hein, le dilemme entre la présence humaine et la présence divine. Et c'est un exemple très simple. Il est dans l'Évangile. Laissez pousser le bon grain et livrer en même temps. Et n'enlever livrer que quand livrer a bien poussé. Alors qu'au point de vue prudentiel, on dirait tout de suite, ah mais tout de suite, oui, pour être sûr que là il y a quelque chose qui va pousser et qui va mettre des divisions, des oppositions. Alors on a envie d'arracher tout de suite. Le philosophe a une rapidité d'intelligence que n'a pas le croyant. Le croyant, il a toute l'éternité devant lui. Et Dieu, Jésus, arrangera tout avec son jugement dernier. Alors c'est pour ça que vous pouvez laisser livrer, pousser. Tandis que le croyant, tandis que le philosophe, l'homme, voit qu'il est dans le temps. Si vous laissez pousser autre chose d'un esprit différent, et ça va faire des petits et ça va grossir. Le médecin sait très bien quand il voit quelque chose qui est mauvais, vite, arrachons. Quand c'est encore pas très évolué pour un cancer. Si on le laisse grossir, ça va tout contaminer. C'est très important de voir combien la prudence avec le choix va nous entraîner dans une diversité. Et c'est pour ça que je dis, c'est toujours à l'égard du choix que les divisions se font sentir, et quelquefois très fortement. on est d'accord pour l'intention, le but. On recherche tous la vérité. Unanimement. On est dans l'intention, on est tous d'accord. C'est beaucoup, hein. On cherche tous la vérité. Mais par quel moyen? Ah, alors, par quel moyen? Déjà, à droite, les intellectuels, à gauche, les affectifs. Ou à droite, les affectifs, à gauche, les affectifs. C'est très curieux. Donc, vous voyez, dans la lumière de la sagesse de Dieu, que Dieu est simple. Et la personne humaine est complexe. Et que sa complexité sera toujours plus grande. Puisqu'elle a atteint en elle des points de vue plus concret. Et ceci, c'est vrai pour le point de vue de la formation de la personne humaine, et c'est vrai aussi pour l'intelligence. Vous voyez, la simplicité de l'intelligence, elle m'est donnée par la sagesse philosophique. Mais si je n'atteins pas cette sagesse philosophique, et que je reste au niveau science, mathématiques, j'ai une diversité énorme. Les sciences sont spéciales et j'ai une diversité très grande. Donc la recherche de la vérité va en quelque sorte s'éteindre. Est-ce que vous croyez que le mathématicien cherche la vérité? Pourtant, les mathématiques, c'est très noble. Croyez-vous que le mathématicien cherche la vérité? Il cherche l'harmonie de son système. Sa vérité est beaucoup plus dans l'harmonie. Elle n'est pas extrinsèque à lui. Et vous avez alors, à partir des mathématiques, une très grande diversité de sciences. Et vous retrouvez peut-être des sciences qui chercheront la vérité, mais toujours sous la dépendance des mathématiques. Et donc, l'aspect mathématique sera là. Et vous aurez le point de vue de l'harmonie à l'égard du système. Donc, j'insiste pour montrer que cette sagesse pratique et la prudence me met en face d'une très grande diversité. Et donc, je dois être attentif à ça. La très grande diversité commence avec le choix prudentiel pour les moyens. Et l'autre diversité viendra du fait qu'on ne cherche plus la vérité, mais que l'intelligence se suffit à elle-même dans son propre développement. Et tout ce qui dépendra des mathématiques, d'une façon ou d'une autre, seront en face d'une diversité qui augmentera toujours. Alors, important de comprendre que la personne humaine, vue dans la lumière de la sagesse de Dieu, commence à porter en elle-même, dans son propre développement, une très grande diversité. Alors, jusqu'où peut aller cette diversité ? Si cette diversité maintient l'unité au point de vue finalité, maintient l'unité dans la chair de la vérité. Cette diversité est bonne. Si cette diversité est trop grande et empêche d'atteindre la finalité unique qui unifie, cette diversité sera anarchique. Elle divisera pour diviser. Elle ne divisera plus dans l'unité. Tant que cette diversité reste analogique, il y a quelque chose d'un qui est plus profond que la diversité. Cette diversité peut être anarchique, alors elle commence à se suffire. Mon choix est bon, je demeure dans ce choix. Ils auront alors pratiquement un projet qui unifie d'une façon différente. Ça se verra au point de vue politique. Il y a une diversité radicale qui empêche ou arrêtera l'unité. Et donc, il faut voir que le choix porte en lui-même cette dualité. C'est un choix qui est en vue de la fin. C'est un choix qui est pour lui-même. Et je crois que là, on peut faire soi-même une espèce d'autocritique. Si la prudence s'appelle une petite sagesse pratique, ça veut dire que la prudence est capable de se présenter comme finalisant tout. Alors je serai finalisé par mon choix. Alors que je vais être toujours finalisé par une fin, autre que mon choix. La fin s'impose. On l'a choisie, mais elle s'impose comme une fin. Tandis que je peux choisir de telle manière que mon choix soit absolu et ne soit plus relatif. Oui. C'est important de comprendre que la personne humaine doit maintenir son unité. Et son unité provient de sa fin et non pas du choix.